Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h20 sur Europe 1. On ouvre à présent notre débat du Club des Idées autour de ce phénomène de société. Les Français se passionnent à nouveau pour l'écriture. Durant le confinement, les premiers manuscrits se sont multipliés. Les maisons d'édition croulent sous les écrits. Et les ventes de livres, est-ce qu'elles ont explosé? Bien sûr, oui. Alors, est-ce que c'est un véritable boom littéraire? On va en parler ce soir avec Alexandre Lacroix, écrivain, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et président et cofondateur d'une école d'écriture, les mots. Bonsoir Alexandre. Il n'est pas là Alexandre, il va nous rejoindre dans un court instant.
Si, je suis là.
Oui, bonsoir Alexandre. Thomas-Louis, journaliste, podcasteur, vous allez publier votre premier roman, Les Chiens de Faïence, à la rentrée, c'est ça?
C'est ça.
Aux éditions La Martinière, et puis Bernard Werber, qu'on ne présente plus, écrivain, auteur de La Planète des Chats aux éditions Albin Michel, et maître d'écriture à la masterclass The Artist Academy, vous nous direz tout à l'heure ce que c'est.
Exactement.
Vous l'avez senti, vous l'avez ressenti, vous, cet engouement littéraire? Bernard, on commence avec vous, allez.
Vous voulez dire en période de Covid ou
oui, en période de Covid. Là, en ce moment, on est en train de vivre quelque chose de rare.
Oui, bah, les gens se retrouvent seuls chez eux avec le confinement, avec le couvre-feu. Une fois qu'ils ont terminé de regarder toutes les séries à la télévision,
oui,
et qu'ils ont terminé d'écouter vos émissions radio, ils ont envie tout d'un coup de se retrouver. Et je crois que l'envie d'écrire est d'autant plus forte, précisément parce qu'ils sont enfermés chez eux, qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller dans les cafés, dans les restaurants. Donc je pense qu'il va apparaître une génération Covid de jeunes écrivains inspirés par cet enfermement forcé.
Thomas-Louis, génération Covid ou pas?
Bah, de fait, oui.
Vous êtes mis à écrire pendant le Covid, la pandémie?
Je ne me suis pas mis à écrire pendant la pandémie, mais je me suis mis à l'envoyer, en fait, concrètement.
C'est ça.
Et il se trouve qu'en fait, dans cette période...
Pourquoi précisément? En ce moment, vous vous êtes dit c'est possible. Ça pouvait être possible aussi il y a 2 ans.
Ça l'était possible.
Mais il y avait un moment, enfin, il y a eu un déclic?
Pas du tout. Mais c'est en fait, je pense que la période... Dans cette période, concrètement, tout était mouvant et en même temps complètement monotone pour moi, dans le sens où il fallait faire un peu de la vie avec peu. Et ce que le confinement a modifié, c'est peut-être la manière dont j'ai envisagé mon manuscrit. C'est-à-dire que, il vous aura pas échappé qu'on a eu un quotidien qui a été quand même collectivement allégé, notamment en sortie, en rendez-vous, qui sont souvent très chronophages. Et j'ai peut-être pu davantage poser mes idées parce que j'avais l'esprit peut-être plus libre sur ce que j'avais envie de faire, et j'ai peut-être pu mieux le travailler concrètement. Et il se trouve que écrire, c'est aussi nourrir une pratique, en ce qui me concerne en tout cas. J'ai jamais été sûr que je deviendrais écrivain dans ma vie, mais il y a toujours quelque chose qui a été omniprésent et que j'ai employé de manière très soigneuse, c'est que j'écrivais un livre non pas en me disant qu'il serait publié, mais en sachant pertinemment que j'en écrirai un autre juste après et qu'il permettrait de nourrir cette pratique. Et peut-être que cette pratique s'est un peu affinée au moment où je me suis dit que j'avais un peu le temps de le faire, vraiment.
Un chiffre, en moyenne, les grandes maisons d'édition ont enregistré 40% de textes en plus comparé aux années précédentes. Alexandre Lacroix, vous ressentez vous aussi cet engouement?
Oui, bien sûr. Alors, il y a une magie de l'écriture, c'est que c'est un art qui, du point de vue technique, est assez léger. Je veux dire par là que pour peindre, vous avez besoin d'un atelier, de toile, de pigments, d'huile, pour réaliser un film. Alors, n'en parlons pas. Pour jouer une pièce de théâtre, eh bien, c'est pas possible. L'écriture, c'est un art en fait mobile. Il suffit d'un carnet, de quelques notes. On peut le faire chez soi, dans le recueillement, au cœur de la nuit, à toute heure. C'est toujours disponible. C'est toujours là sous la main. En fait, l'écriture est toujours là sous la main. Et c'est sa magie, sa force dans les périodes de restriction des voyages et de restriction des activités culturelles. Et c'est vrai que l'école Les Mots, dont je suis le cofondateur, a lancé au premier jour du confinement des ateliers, toute une série d'ateliers, en fait, écrivez votre journal du confinement. On savait pas très bien ce qu'allait se passer, mais on a fait cette proposition, ça a été la ruée. Et là, on a pu mesurer, si vous voulez, qu'il y avait une volonté, que je trouve très intelligente, très pertinente, de beaucoup de personnes qui n'avaient jamais osé se lancer dans l'écriture, qui avaient un peu peur de la page blanche,
vraiment franchi
de se dire, mais finalement, je suis enfermé, je vais sauter le pas. Je vais sauter le pas.
Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend dans ces écoles d'écriture? On apprend à écrire son premier manuscrit, par exemple?
Par exemple, il y a des ateliers dont enfin, qui s'adresse à des participants qui ont vraiment un projet de manuscrit. Mais ça, vous savez, c'est une étape déjà très avancée dans la vie d'un écrivain en devenir. En fait, au départ, on apprend aussi à ne plus avoir peur de la page blanche. L'atelier classique, c'est pas du tout lancez-vous dans un roman. Je dirais ça, c'est comme si on vous disait déjà de jouer dans un opéra. Enfin, l'atelier classique, c'est aussi se faire plaisir, découvrir des techniques, découvrir une pluralité de techniques d'écriture. Je veux dire, ça va de tout, de découvrir les genres. Et puis aussi, surtout, je dirais, apprendre à raconter une histoire. Parce que la narration, en fait, la manière dont on présente les personnages, dont on tisse des rebondissements, dont on rend une histoire, une intrigue intéressante, bah, ça repose pour partie sur le génie, et ça c'est impondérable, mais aussi pour partie sur des techniques, et ça on peut les apprendre dans une école.
Bernard Werber, vous qui êtes une star de l'édition maintenant, quand un petit môme ou un jeune vient vous voir en vous disant « Bernard, comment on fait pour sortir un bouquin? Comment on fait pour écrire ?» Vous dites quoi?
Je dis que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il suffit de trouver une régularité. Et aussi, je dis autre chose, il faut faire taire la machine à juger. Je crois que beaucoup de gens n'arrivent pas à écrire parce qu'ils ont le prof de français qui tout le temps leur dit c'est pas assez bien, c'est pas assez esthétique. Et il faut juste s'amuser.
Il faut de l'audace, quoi.
Je crois que tout le monde a envie de raconter des histoires. Déjà, tous les soirs, quand on se retrouve à un dîner en famille, chacun raconte une petite histoire. Mais après, il faut laisser notre esprit gambader. J'ai ça comme un cheval. Vous savez, un cheval, ça a naturellement envie de galoper. Notre esprit a envie de galoper en racontant des histoires.
Il faut libérer l'écrivain qui est enfoui en soi.
Exactement. Et renoncer à avoir un projet. C'est-à-dire que si vous écrivez pour passer à la télévision, pour faire un best-seller ou pour être riche et célèbre, c'est foutu. Il faut juste écrire pour trouver le plaisir d'écrire. Et c'est ça, dans le masterclass, je pense que le monsieur des mots aussi est là-dedans, c'est juste...
Alexandre Lacroix.
C'est juste rappeler que écrire, c'est marrant.
Parce
c'est
que
un
vous
plaisir.
Aussi, Bernard, dans votre école, justement, dans la fameuse masterclass The Artist Academy, c'est ce que vous enseignez à des mômes?
Oui.
Des mômes, d'ailleurs, je ne sais pas quel âge ils ont. Mais...
Oh non, je crois qu'il y a tous les âges. Ouais. Mais surtout, je leur dis, attendez, on va essayer de trouver une dimension de plaisir. Si vous commencez à souffrir dans l'écriture... Bah, les gens vont souffrir à vous lire. Donc, il faut que vous mariez, il faut que vous ayez peur quand vous écrivez par vos propres personnages. Et il faut qu'au moment où vous écrivez, vous retrouvez des amis. Tous les personnages, c'est des potes. Et personne ne pourra comprendre votre petit monde. Vous fabriquez un monde. En fait, c'est le plaisir d'être un petit dieu. C'est-à-dire, vous fabriquez un monde avec des décors, des personnages, ou le plaisir de metteur en scène à l'heure.
C'est ça, exactement.
Il évoquait le on est le réalisateur d'un monde qui n'existe pas. Et on va le faire émerger. Et c'est le plaisir d'émurge. C'est le plaisir de créer là où il n'y avait rien, tout un univers.
Il y a le moment où on pense écrire et puis le moment où l'on écrit. Je voudrais qu'on écoute Éric Emmanuel Schmitt, l'auteur de Paradis perdu. C'était sur l'antenne d'Europe 1 le mois dernier, en 2021, février 2021, il y a quelques jours.
Je venais de sortir de mes études, j'enseignais à la fac et j'ai eu cette idée d'un personnage immortel qui traverserait les temps, qui nous les raconterait et qui en serait à la fois le témoin et l'acteur. Mais j'étais capable d'avoir l'idée à 25 ans, mais j'étais incapable de réaliser cette idée.
Thomas Louis, journaliste qui va publier bientôt son premier roman à la rentrée prochaine. Il faut du temps pour écrire, pour sortir ce livre, pour oser mettre des mots sur une page, pour oser proposer son manuscrit à une maison d'édition.
Alors, il faut du temps. En ce qui me concerne, pas vraiment, parce que j'avais déjà sauté le pas. Ça fait, alors, du haut de mes 28 ans, mais ça fait déjà presque finalement 10 ans que j'écris des manuscrits, mais pas toujours dans l'optique d'être publié. Et donc, j'avais déjà eu cet exercice un peu de... Bah, où on ne sait pas trop comment on va se présenter, on envoie son manuscrit, personne ne sait qui on est, etc. Et bon, il se trouve que même avec du recul, ils n'étaient pas très bons, ces manuscrits. Ouais. Mais j'avais déjà fait ce geste d'envoyer un manuscrit. Mais après, moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, dans le plaisir d'écrire, moi, c'est le travail de la langue, en fait. C'est, on pense toujours maîtriser la langue, mais toujours c'est elle qui nous domine à travers son histoire, son étymologie, etc. Et ça, c'est un vrai exercice de modestie, en fait, d'écrire. C'est un très bon exercice pour s'approprier sa langue, et gratuitement, en plus, on l'a pas dit, ça, encore. Mais bon, certes, il n'y a pas besoin d'un atelier, etc., mais il y a besoin de rien, concrètement. Et ça permet non pas de la redécouvrir, mais de l'explorer. Par exemple, si je vous dis, il a le dessous des yeux bistres, ben, concrètement, c'est pas la même chose que de dire il a des cernes. Mmh. Et bon, j'extrapole un peu, mais quoique. Mmh. Mais l'écriture, c'est aussi ça. C'est un formidable moyen de faire des pleins et des déliés avec sa langue. Et, mais c'est une vraie leçon de modestie, effectivement, ne serait-ce que d'envoyer son manuscrit.
Bernard Werber, vous qui connaissez le monde de l'édition parfaitement depuis bien longtemps.
Oh non,
mais vous restez, un jeune homme. On l'a dit, 40% de manuscrits adressés aux maisons d'édition en plus cette année. Mais tout de même, on restera sans doute autour de 600 livres pour la rentrée littéraire de septembre prochain.
C'est énorme.
500 pour le mois de janvier. C'est énorme, mais en même temps, c'est très peu quand on sait que chez les grandes maisons, on reçoit entre 4000 et 6000 manuscrits par an.
Oui, mais moi, je vois, quand je vais chez Albin Michel, je vois le tas des manuscrits. C'est qu'ils en reçoivent 40 par jour. Alors, je ne sais pas, en général, chez les autres éditeurs, mais 40 par jour, ça veut dire 40 personnes qui ont mis toute leur âme, tout leur truc, là, dans ce tas. Et en fait, il faut savoir une chose, ceux qui vont lire ces manuscrits, c'est essentiellement des profs de français à la retraite et des étudiants.
Ouais.
Donc, vous allez être jugés par ces deux personnes. Et alors, il y a un problème dans tout le système, c'est qu'en général, ils jugent avec la volonté de trouver le prochain Goncourt.
Ouais.
Et ce Goncourt, c'est une sorte de miroir aux alouettes où sur 600, en gros, il va y avoir un seul qui a le Goncourt et 599 qui vont être cocus du prix littéraire. Donc, ouais. il faut restituer ça. Ça m'a l'air un peu l'abattoir. Ouais. C'est la grande boucherie de septembre. Et moi, j'ai plutôt envie de dire, faites un livre populaire. Faites pas forcément un livre qui recherche un prix littéraire. Faites un livre qui touche le grand public. Et justement, la fonction de raconteur d'histoire, c'est raconter une histoire pour que les gens s'amusent, pour qu'ils se détendent, pas forcément pour qu'ils s'émerveillent devant la qualité du style, mais qu'ils soient juste, qu'ils s'oublient eux-mêmes et qu'ils vivent une évasion.
Je voudrais qu'on ouvre une parenthèse, parce que je voudrais qu'on accueille Pierre Nozière. Vous venez de dire quelque chose de très important, Bernard Werber. Il faut mettre son âme. Bonsoir Pierre Nozière.
Bonsoir.
Vous êtes biographe, fondateur du réseau Les Compagnons Biographes et auteur de Osez votre livre aux éditions Voix Plume. Vous êtes un accoucheur finalement, c'est-à-dire qu'en gros vous dites à des gens, à des jeunes qui veulent écrire ou des moins jeunes, libérez votre âme, ce que disait à l'instant Bernard Werber, c'est ça ?
Oui, accoucheur, passeur également. Notre métier, en fait, il consiste à accompagner les personnes qui veulent écrire leur livre, s'exprimer et donc traduire leurs sentiments, ce qu'a été leur vie. Et effectivement, là, comme ces personnes ont une difficulté à s'exprimer naturellement, c'est la raison pour laquelle elles font appel à nous.
Ouais.
Oui, effectivement, nous avons cette mission maïotique un peu de les accoucheurs, de les conduire à leur ouvrage.
Et Pierre par rapport pardonnez-moi, oui. Avec le confinement, justement, vous avez vu un boom pour la biographie. Les gens avaient envie de se raconter et de raconter finalement ce qu'on a tous vécu.
Alors justement, c'est ce que je ressentais par rapport à la question posée. Notre réseau, les Compagnons Biographes, nous exerçons partout en France. Ce qui fait que notre activité nous met en proximité par rapport à cette passion française là, qui est l'objet de notre débat aujourd'hui. Et là, je peux vous dire clairement que notre ressenti actuel, c'est effectivement une intensification de la demande.
Oui.
Et tout indique qu'elle est liée au confinement, au couvre-feu. Les éditeurs, Alexandre Lacroix l'a dit tout à l'heure, constatent que beaucoup de personnes ont été vers la fiction, la poésie, l'écriture de romans. Mmh. Nous, les Compagnons Biographes, nous connaissons des projets qui sont tout autres, puisqu'ils sont dans l'expression autobiographique que précisément nous devons faire accoucher. Et soit c'est pour une réflexion ce qu'ils ont vécu, faire un point d'étape dans leur vie et aussi envisager de nouveaux projets. Ou bien alors, et ça rejoint tout à fait le confinement, ça peut être aussi pour recréer du lien familial ou amical et d'une façon beaucoup plus profonde et d'ailleurs durable, vu le support, que les apéros Zoom et les messages dans les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est ce qui est très fort.
Ouais.
Malheureusement, lorsque je dis que nous constatons une intensification, ce n'est pas pour autant que le nombre de demandes existe aussi. Parce que là, il y a un problème générationnel, c'est le fait que dans cette époque, les personnes les plus âgées, notamment celles qui sont en EHPAD, ouais, se heurtent aux barrières sanitaires, qui fait que concrètement, elles ne peuvent pas recevoir leur biographe.
Bien sûr.
Et vu la tranche d'âge où elles sont, elles ne peuvent pas communiquer par des produits comme Skype, Zoom, etc. Mais on peut vraiment croire qu'une fois que tout cela sera fini, leur envie va revenir, parce que ce sera soit leur envie de transmettre eux-mêmes parce qu'ils auront été conscients des fragilités de la vie auxquelles ils auront été confrontés, et puis, bien sûr, leurs enfants, petits-enfants aussi devraient exercer leur demande. Voilà, donc, en gros, un rajeunissement. Mais provisoire, et on espère que ça se retrouvera.
Je vous écoute, mais quand même, c'est un peu étonnant, Bernard Werber, il y a un côté quand même très égocentré, égocentrique. Ah, oui.
Surtout en France, où on utilise la littérature comme une manière d'éviter la psychanalyse. D'ailleurs, il faut voir le nombre de romans autobiographiques dans lesquels la personne en fait règle ses comptes avec ses parents, avec son passé, avec son patron. Donc ça devient une sorte d'exutoire. Mais ça, c'est une forme de littérature.
Ouais,
ce n'est pas celle que je prise le plus en tant que lecteur, mais je reconnais qu'en France, ça prend une part énorme. Et il faut voir aussi une chose, c'est que écrire un livre, ça offre un pouvoir énorme, c'est celui de devenir immortel. C'est-à-dire, vous écrivez un livre qui raconte...
On laisse une trace à tout jamais.
Voilà. Vous écrivez un livre qui raconte votre vie. Vous pouvez mourir en traversant la rue. Il va rester ce livre. Et donc, vous allez exister dans les mémoires. Alors que les autres, ceux qui n'auront pas écrit de livre, seront oubliés.
Pour terminer avec vous, Pierre Nozière, combien ça coûte d'écrire une biographie ?
Alors là, le coût, bien sûr, écrire un tel livre, ça prend beaucoup d'heures, vous vous en doutez.
Bien sûr.
Et donc, il y a les honoraires du biographe qui sont à supporter.
Ouais.
Donc, selon les prestataires, en général, ça coûte au moins 2 000, 2 500 euros, effectivement, à dépenser, ce qui fait partie, d'ailleurs, des obstacles, surtout en période de crise, effectivement. Mmh. Par contre, par rapport à ce que disait Bernard Werber sur la nature, c'est pas si égocentrique que cela, justement. Parce que nous, compagnons biographes, on constate qu'au contraire, à l'occasion de ce projet d'écriture, les gens se relient à leurs proches, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions à des vieux copains, à des enfants pour rassembler leurs souvenirs.
Ouais.
Et puis, quand ils vont choisir les photos, ce sera toute la famille qui va s'y mettre. Et ensuite, quand le bouquin est sorti, il y a les critiques. C'est-à-dire qu'il y a effectivement tous les copains qui vont dire d'abord, toi, t'as oublié de parler de moi, c'est pas très gentil, bon, ça, c'est anecdotique. Mais surtout, qui vont dire, ah oui, mais tu sais, là, la circonstance que tu m'as racontée, eh bien, j'en ai discuté avec un tel, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui est tout à fait normal, bien sûr, parce que la mémoire est subjective. Mais au contraire, là, je ne rejoins pas Bernard Werber, c'est pas du tout la tour d'ivoire que d'écrire son livre. C'est au contraire ouvrir les portes en grand.
Allez Bernard, répondez.
Non, mais je sais pas en contradiction. Je dis juste que en France, en tout cas, cette part de la littérature est trop importante à mon avis, et que le vrai travail, la vraie difficulté consiste à ne pas parler de soi. Parler de soi, à la limite, il faut juste avoir une bonne mémoire et être honnête. Mais ne pas parler de soi, ça veut dire créer des personnages et créer une structure. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et je regrette que la littérature imaginaire n'ait pas une plus grande importance, surtout en France, où elle est pratiquement inexistante. Donc il y a énormément d'autobiographies et très très peu de littérature imaginaire que j'espère je peux défendre un tout petit peu.
Allez, on continue, la parole va circuler. Je voudrais vous dire un grand merci, Pierre Nozière. Je rappelle que vous êtes donc biographe, fondateur du réseau Les Compagnons Biographes, et auteur de « Osez », votre livre aux éditions Voix Plume. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, hein, Alexandre Lacroix, Thomas Louis, Bernard Werber. On va continuer ce débat des idées passionnant dans un instant. Écrire pour se raconter, écrire pour se livrer. On l'a bien vu, hein, y a un côté psy. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
19h40 sur Europe 1, on continue ce débat passionnant du Club des Idées ce soir autour de ce phénomène de société. Les Français se passionnent à nouveau pour l'écriture, on écrit, on tente d'éditer. Est-ce qu'il y a des recettes d'écriture ? Écoutez ce que disait Joël Dicker, c'était sur l'antenne d'Europe 1, chez Pierre Domino en janvier 2021.
Le roman, contrairement à ce qu'on peut croire, ne connaît pas de recette. S'il y avait une recette pour qu'un livre marche, tous les auteurs, tous les éditeurs seraient très heureux. Quand je commence un livre, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ce livre va être ? Est-ce que je vais terminer ce livre ? Est-ce que le texte sur lequel je travaille et pour lequel je vais consacrer des semaines, des mois, une année, peut-être 2 ou 3, est-ce qu'il va aboutir finalement à un roman fini que les gens vont lire ?
Joël Dicker dit qu'il n'y a pas de recette miracle pour un roman. Bernard Werber, c'est vrai ou pas?
Oui, il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est être original.
Ouais.
Je crois que tous ceux qui se démarquent, c'est ceux qui précisément ont trouvé quelque chose qui n'avait pas été fait avant. Donc il ne faut surtout pas copier ce qui existe déjà, il faut être original. Après, ce qu'il y a, c'est que dans tous les romans, il y a un début, un milieu, une fin. Et la qualité d'un roman tient à la surprise finale. Donc c'est une sorte de politesse. Une fois qu'on dit au revoir dans le roman, il faut sortir un truc, il faut sortir un lapin du chapeau. En fait, un roman ressemble à un tour de magie. C'est un métier de prestidigitateur dans lequel il faut tenir l'attention du lecteur. Et au dernier moment, on sort un lapin. Et c'est à ce moment-là qu'on peut juger l'œuvre. Si on rate le lapin, on a raté tout le bouquin. Donc on apprend à être des magiciens.
Je me tourne vers le professeur Alexandre Lacroix, écrivain, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et président et cofondateur d'une école d'écriture, Les Mots. Il y a des techniques que l'on peut apprendre ou pas?
Oui, il y a toutes sortes de techniques, mais une technique et une recette, c'est pas la même chose. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Joël Dicker. Il n'y a pas de recette. Et je dirais que même l'ensemble des techniques ont pour but d'aider chacun comme auteur à trouver sa voie. Au fond, je crois que le débat qu'on vient d'avoir sur est-ce qu'il faut parler de soi, être dans une littérature auto-fictionnelle, autobiographique ou être dans l'imaginaire, c'est un petit peu un faux débat, dans la mesure où on peut être raconter des choses très intimes dans un espace de fiction. On va donner des éléments de sa vie privée la plus intime. En fait, on va juste les donner à un personnage et à qui on donne la troisième personne du singulier, hein, si vous voulez. On les déplace juste. Et puis, inversement, dans quelque chose qui est autobiographique, on peut se mettre à fabuler. Donc, je crois que c'est un peu un faux débat, mais la vraie difficulté ou le vrai enjeu, c'est dans cet exercice de liberté de trouver sa voie. Ça passe par le style, par la scansion, ça passe par la construction aussi un petit peu. Et là, je dirais que les techniques, elles aident exactement. En fait, en littérature, il se passe une drôle de chose. C'est-à-dire que, comme on a eu des cours de français, on croit qu'on sait faire, alors qu'en général, pour tous les arts, on reconnaît qu'on a besoin d'un professeur, on a besoin d'une forme de transmission. Je veux dire que si vous voulez demain jouer un concert de guitare ou de saxophone, vous savez que vous devez prendre des cours de musique. Si vous voulez danser sur une scène, vous savez que vous devez prendre des cours de danse. Mais bizarrement, on croit que le passage par le collège et par le lycée dispense en quelque sorte de toute forme de transmission et d'apprentissage. Et là, je crois qu'il y a un enjeu du côté des ateliers d'écriture, mais qu'il y a aussi un enjeu de pédagogie plus générale sur l'écriture. Ça tombe pas du ciel. Et les grands auteurs, quand vous regardez bien leur biographie, ils ont souvent eu un mentor ou quelqu'un ou un autre auteur qui leur a transmis certaines choses, à qui ils ont lu leurs manuscrits, présenté leurs textes, de qui ils ont eu des retours critiques. Et c'est tout ça, en fait, l'apprentissage. L'apprentissage est nécessaire, c'est un apprentissage technique, mais c'est technique, exactement comme quand vous savez jouer de la musique, bah vous êtes plus libre. Par exemple, quand vous savez déjà bien jouer de la musique, vous maîtrisez bien l'instrument, vous allez pouvoir improviser. Dans l'écriture, c'est pareil. Plus vous êtes dans la technique et plus vous êtes libre. C'est ça le paradoxe.
J'ai donné la parole au pro Bernard Werber, au prof Alexandre Lacroix, maintenant l'élève. C'est un peu l'être à un jeune poète ce soir. Thomas-Louis, vous, il y a eu des disciples, il y a eu des gens qui vous ont inspiré pour écrire votre premier roman?
Alors, mon premier roman, en réalité, n'est pas du tout mon premier manuscrit, mais il y a effectivement eu des gens qui m'ont inspiré. J'ai eu la chance de faire des études de lettres et de ce fait d'étudier des écrivains. Et le fait de les étudier, concrètement, ça m'a... je pense que ça m'a donné envie, en fait, de les suivre dans cette perspective. Mais au-delà de ça, non, mon manuscrit, en l'occurrence le manuscrit des Chiens de Faïence, là, la seule et unique personne sur cette terre qui l'ait lu, c'est mon éditrice. Ouais. Je ne l'ai fait lire à absolument personne. Peut-être par honte, je ne sais pas, mais je suis un peu seul avec ça aussi.
Ouais.
C'est peut-être aussi ça l'écriture, c'est aussi oser de ne plus être seul avec ce qu'on est en train de faire. Et c'est une façon de se placer dans le monde, de se demander d'où je parle pour parler de ce dont je parle, mais c'est aussi un exercice assez solitaire.
Mais Thomas, vous avez suivi une méthode, vous avez fait un plan, comment ça se passe?
Alors, pour celui-ci, non. J'ai pas fait de plan, je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains, parce que j'ai la chance également de souvent les interviewer, ils me disent parfois dans les rouages de leurs manuscrits, oui je fais un plan, etc. Moi en l'occurrence j'ai pas du tout fait de plan, et c'était un roman d'imagination, donc j'avoue que je me suis un peu laissé emporter par l'idée, j'avais l'idée de base, et je me suis laissé emporter ensuite par ce qui venait un peu dans l'absolu. Il n'y avait pas de technique, la technique davantage je l'ai portée sur la langue moi,
ouais.
Sur le style.
Ce soir sur Europe 1, on vous offre un cours gratuit. Vous avez Bernard Werber, professeur. Comment on fait pour écrire un bouquin? Comment vous faites? dans les coulisses de Bernard
Alors,
Verbet.
Je vous dirais, pour faire un bouquin, ça prend exactement 30 secondes. C'est 30 secondes pour trouver l'idée.
Ouais.
Une fois que vous avez l'idée, vous avez juste...
Il reste le plus dur.
Voilà, vous avez la petite graine et après, elle va pousser. Mais si vous n'avez pas l'idée, vous n'avez rien. Et l'idée, c'est en gros, pour moi, c'est un début, un milieu, une fin. Et moi, je commence par écrire une nouvelle. Je crois qu'il est temps aussi de remettre en valeur les nouvelles. Parce que la nouvelle, on ne peut pas tricher. Il faut que tout soit efficace. Il faut que ce soit marrant tout de suite. Et que ça prenne aux tripes, c'est-à-dire que les personnages soient hyper efficaces et que ça prenne tout de suite. Si jamais
quand vous dites j'écris d'abord une nouvelle, vous avez la nouvelle et après c'est comme une recette de cuisine, vous rajoutez du lait et ça fait un roman.
Alors c'est pas comme une recette de cuisine en rajoutant du lait, mais je
il y a une base et puis après on
après on la met en scène. Et alors contrairement à Thomas, je fais des plans et je passe énormément d'énergie à faire un plan. Précisément pour tout le temps surprendre. Mais c'est parce que ma littérature...
Donc c'est comme un scénario finalement, vous savez exactement où va se terminer votre livre.
Oui, et c'est vrai, il y a les deux écoles. Il y a l'école où on empile des briques pour faire une cathédrale, et il y a l'école où on dessine la cathédrale et on se débrouille pour que les briques participent à la création des murs. Mais moi je suis à fond pour le plan, et pour écrire un roman, je fais une dizaine de plans. Après, je réécris entièrement une dizaine de fois. C'est-à-dire que je fais un premier grand roman qui me permet de comprendre tout ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Et je redémarre à zéro sans relire. Et cette technique me semble une technique qui permet, en tout cas, d'avoir un bon équilibrage entre le début, le milieu et la fin. S'il y a une chose à apprendre, justement, dans les ateliers, c'est comment équilibrer une structure. En fait, c'est comme un organisme vivant. Il y a des jambes, il y a un cœur et il y a une tête. Si vous mettez tout dans les jambes et qu'il n'y a pas de cœur et qu'il n'y a pas de tête, ça ne va pas fonctionner aussi bien. Donc peut-être, même s'il n'y a pas de recette, il y a une manière d'observer son propre manuscrit pour qu'il soit équilibré et qu'il fonctionne.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. On parlait du côté biographe, psy tout à l'heure. Ouais. Alexandre Lacroix, vous êtes écrivain, vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Ce côté psy... ce côté donner de soi, peut-être se livrer, oser, il est primordial, il est important.
Il me semble que en fait, quand on écrit, on mène un travail sur les mots,
ouais.
Et que le travail sur les mots, c'est quelque chose qui est très profond en fait. C'est-à-dire que, et là on parle pas forcément d'écrire un livre, hein. Travailler sur les mots, c'est apprendre à nommer,
bien sûr,
ses propres émotions, ses propres sentiments, c'est apprendre à décrire le monde qui nous entoure, c'est apprendre à décrire des personnages, mais en fait qui sont ces personnages, souvent des êtres qu'on a connus ou des ils ont des traits de caractère qu'on a observés, des traits aussi physiques qu'on a observés. Et tout d'un coup, en fait, avec ce travail sur les mots, il se passe quelque chose d'assez étonnant. C'est que vous, je vais pas dire que vous devenez l'auteur de votre vie, vous devenez maître de votre destin. C'est un peu grandiloquent, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous avez pris sur vous-même et sur le monde comme vous n'aviez pas pris auparavant. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas strictement en rapport avec l'objet littéraire, avec le livre final. C'est quelque chose que ressent toute personne qui écrit. Même une personne qui écrit un journal intime qu'elle ne montre jamais à personne. Pourquoi le fait-elle, cette personne? Pourquoi écrit-elle ce journal intime secret? Eh bien, à cause de cet extraordinaire levier ou de cette extraordinaire auto-éducation, une auto-éducation morale, affective, que représente l'écriture tout au long de sa vie. Alors, c'est pas une thérapie. Pour moi, c'est pas une thérapie, c'est pour ça que le mot psy, mais, c'est presque une philosophie.
Ouais, mais si en ce moment ça cartonne, c'est vraiment l'angle de notre débat ce soir, c'est aussi parce qu'on a besoin de coucher sur le papier ce que l'on a tous vécu, ce climat anxiogène, on a besoin de se libérer de quelque chose, Bernard Verbet.
Moi, je pense que c'est une thérapie.
Ah, on a des accords.
Ouais, non, mais on joue sur les mots, c'est aussi une philosophie, mais surtout, ça fait du bien. Écrire, ça fait du bien. Tout à l'heure,
vous avez commencé comme ça, Bernard. C'était aussi pour vous évader.
Ah ben oui, j'ai commencé à 8 ans parce que je vivais le monde scolaire. Pour moi, était pénible.
Ouais.
J'écrivais des petites histoires avec les animaux pour me détendre. Et après, j'ai continué à écrire des histoires tout simplement parce que c'est amusant d'écrire des histoires. Et puis, en effet, bon, comme il disait, on se connaît mieux. Plus on écrit, plus on est obligé d'aller chercher dans sa propre capacité de psychologie, d'observation des autres. On est obligé aussi de comprendre le monde. Vous ne pouvez pas écrire si vous n'êtes pas curieux et de vous-même et des autres. Donc il y a, pour moi, il y a une thérapie. En tout cas, ça m'a fait énormément de bien. Ouais. Je peux vous dire, j'avais des problèmes de santé et au fur et à mesure que je me suis mis à écrire, j'allais de mieux en mieux.
Vraiment ?
Et maintenant, j'ai résolu mes problèmes. Oui, j'avais un rhumatisme articulaire depuis l'âge de 9 ans.
C'est passionnant, c'est intéressant.
Et je me suis arrêté d'avoir des crises à partir du moment où j'étais publié. C'est-à-dire, le jour où j'étais publié, les crises se sont arrêtées. Donc, ce qui montre qu'il y a une dimension psychologique et que c'est pour ça que le mot thérapie, je l'assume. Et c'est l'écritothérapie, c'est-à-dire que vous allez vous faire du bien en écrivant, même si vous n'êtes pas publié.
Il nous reste beaucoup très peu de temps, pardonnez-moi, justement, Bernard Werber. C'est bien, il y a beaucoup de livres qui arrivent, de manuscrits qui arrivent dans les maisons d'édition. C'est superbe, on peut écrire, on peut se faire plaisir tout seul. oui. L'idée, c'est quand même d'être lu au bout de la chaîne, d'avoir des lecteurs.
Mais il y a une formidable possibilité actuellement, c'est les plateformes. C'est-à-dire que de mon temps, si vous n'aviez pas été détecté par les éditeurs, ben vous n'avez plus qu'à ranger votre manuscrit dans votre cave. Maintenant, vous avez la possibilité, une deuxième chance, vous mettez sur Internet, sur ces plateformes, il y en a toutes sortes, et vous pouvez présenter votre travail aux autres. Et d'ailleurs, l'un des grands intérêts d'Artist Academy, c'est que les élèves peuvent se lire entre eux, et ils peuvent se soutenir entre eux, et donc ils peuvent déjà... arriver à faire émerger de leur groupe, de chaque promotion, les meilleurs d'entre eux. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça n'existait pas au moment où j'ai commencé à publier.
Thomas Louis, 3,7 milliards d'euros de vente de livres imprimés, 324 millions d'exemplaires. L'édition se porte bien, elle a bien vécu le confinement. Vous qui allez sortir votre livre, vous espérez, au bout de la chaîne, avoir des lecteurs ?
Alors, je l'espère, oui, je l'espère grandement. Après, est-ce que c'était vraiment le but, je ne sais pas, d'être vendu en l'occurrence. Pour moi, c'était, ça est vraiment à titre personnel, mais c'était quelque chose d'assez symbolique. Moi, pour moi, d'écrire, c'était... je ne raconterai pas ma vie ici, mais je viens d'une classe moyenne, la campagne, etc. Et pour moi, le livre, c'était un objet plus qu'un... C'était des figures, c'était des gens qui parlent Europe 1 à Paris, dont je fais partie maintenant, en fait. Et c'était avant tout, c'était ça pour moi le déclencheur. C'était vraiment symbolique d'écrire, d'être publié, c'était d'avoir mon livre, mon nom sur une étagère.
Dernière question à Bernard Werber. Confinement partiel le week-end, les librairies font désormais partie des commerces et des lieux essentiels. C'est une victoire, Bernard Werber ?
Oui, et le fait qu'il y ait un débat dessus, je crois que ça attire encore plus l'attention sur l'objet livre. Et je crois que et les libraires, et les éditeurs, et les auteurs, nous avons tous gagné à ce débat. Qui est un débat important parce que finalement, on ne sait pas qui on est, on voit juste les émissions. Enfin, on pouvait dire, attendez, il y a un combat, vous devez vous battre pour les livres, pour les librairies. Et vous savez, en France, c'est un des pays où on a énormément de librairies. Si vous commencez à voyager, vous apercevez que dans les autres pays, il n'y en a pas autant. Et je crois que c'est notre trésor national, il faut se battre pour ça. D'ailleurs, je crois que les livres, la part des livres dans la culture est plus importante que celle du cinéma ou de la musique. Ça montre bien que c'est vraiment un endroit vivant et qui ont plein de dynamisme et qui font entretenir.
Et les Français sont battus, on l'a bien vu pendant le confinement. Il fallait vraiment la réouverture des librairies.
Les journalistes les ont bien aidés.
Exact.
Je vous en remercie.
Merci vraiment. Merci à vous, Bernard Werber, écrivain, auteur de La Planète des Chats, édition Albin Michel. Thomas Louis, journaliste, podcasteur, vous avez
juste
publié...
Juste, bonne chance.
Et voilà, premier roman, Les Chiens de Faïence, c'est à la rentrée littéraire en août prochain. Et puis Alexandre Lacroix, écrivain, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Et on le répète, un président et cofondateur d'une école d'écriture qui s'appelle Les Mots. Merci vraiment infiniment à vous trois.
Merci beaucoup.